À Paris la semaine dernière et c'était tout un très, très beau voyage. Je ne sais pas si on vous a mis au courant, mais j'ai passé une semaine là-bas. Je fais partie d'un comité juste à côté, multilingue, propriétaire de Diffusion Vie. Et on avait, je fais partie du conseil d'administration, puis on avait une réunion samedi dernier à Paris. Alors, j'étais bien content et on a passé une semaine là-bas. Puis ils m'ont fait prêcher dans une église à Paris qui est très rare. C'est une église de 2500 personnes. C'est très, très rare à Paris parce que ça coûte tellement cher. Juste vous donner un exemple. L'église dans laquelle je me trouvais, quand on dit multiculturel, c'est vraiment multiculturel. Là, il y a différents cultes, différents services dans l'église. Il y a un service africain, un service latino, il y a des Slaves, des Roumains, juste un peu de Parisiens, pas beaucoup de Parisiens pure laine, comme on dit. Et il y a tout un chambardement de l'immigration là-bas, depuis qu'ils sont avec l'Union européenne. On peut se procurer des papiers au nord, à différents pays. Puis une fois que tu as les papiers, tu peux circuler librement dans l'Union européenne. Et ils doivent composer avec ça. Mais l'Église fait un excellent travail à rejoindre ces gens-là pour l'Évangile. C'est la traduction espagnole? Es-tu en avant de moi ou en arrière de moi, là? Si tu parles plus vite que moi, ça, c'est un problème. Tu dis des choses que je n'ai pas encore dites. Et c'était vraiment touchant. Lise et moi, on s'est retrouvés à deux cultes. Je suis allé prêcher à deux cultes baptistes. C'est une église pentecôtiste dans laquelle se trouvent différents cultes. Il y a 8 cultes le dimanche. Alors, vous pouvez imaginer une église. Il y a à peu près 600 à 700 places, à peu près grand comme ici. Et il y a plusieurs cultes, un après l'autre. C'est incroyable. Il y a toute une vie là-dedans. Et tu ne peux pas être vraiment propriétaire de l'église là-bas, juste pour vous dire que... On pensait avoir des défis financiers il y a 2-3 ans avec le bâtiment. Écoutez bien ceci. Là-bas, Claude, tu vas être très content, ça va t'encourager comme membre du comité de finances. J'ai demandé comment ça coûte de rester là-bas. Ils sont pas propriétaires. C'est juste un étage, non, deux étages, et tout le reste, c'est des condos en haut. Eux autres appellent ça des appartements. Et ça leur coûte 18 000 $ canadiens par mois en location. 200 quelques mille par année en location. Et c'est tout un défi, je vous dis, parce que il y a plusieurs immigrants là-bas qui sont dans la rue, ils ont beaucoup de difficultés financières, mais Dieu pourvoit. À chaque mois, c'est incroyable de voir ça, c'est beau. Ils ont un panneau avec des chiffres d'offrande et tout ça, et à chaque... c'est vraiment beau de voir Dieu à l'œuvre, comment Dieu a pourvu. Hein? Dieu n'évite pas des défis, c'est ça que je me suis aperçu. Il évite pas les défis. Dieu relève les défis. Pour lui, rien n'est possible à lui. C'était vraiment encourageant de voir ça. Et ma femme et moi, je suis allé prêcher à deux cultes. Les Slaves, c'est toute la Russie. Tu as 13 États qui font partie maintenant des Slaves, qu'on peut considérer. Plus grande communauté européenne, 230 millions environ. Et puis, de chanter des cantiques, Alexandre, c'était tellement beau, en russe. Je pouvais reconnaître certains airs. Mais d'entendre, et le culte est un peu différent, alors les gens viennent en avant ici, donnent des témoignages, un poème, une louange et tout ça. Et tu vois qu'il y a beaucoup de souffrance. Ça c'est une chose qu'on voit, tu as les Roumains qui venaient en avant donner leur témoignage. Beaucoup de souffrance, hein, parce que vous pouvez vous retrouver, il y avait une famille qui sont allés chanter en avant, je pense à la famille Hamel, plusieurs enfants, 12 enfants dans une famille roumaine. Et là-bas, le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir des papiers. Alors, tu peux te retrouver que l'épouse avec les enfants va avoir ses papiers, puis le mari n'a pas ses papiers et peut être pris à tout moment par la police et envoyé en avion. Et c'est tout un... Et l'Église travaille avec tout ça, tout un ministère là-bas. Et le pasteur me dit, Normand, je passe mon temps à faire de la gestion de papiers. Mais c'est comme ça qu'ils aident les gens là-bas. Dieu leur a confié ce genre de ministère-là. Et c'était très touchant. Puis de voir la foi des Roumains, qui, malgré ces risques à tous les jours, on pouvait voir la profondeur et leur foi et leur amour pour Dieu. C'est incroyable de te retrouver à l'autre bout du monde, hein, puis être lié. C'était comme si ça faisait longtemps qu'on se connaissait. Mais c'est le sang de Christ qui nous unit. Hein. On est un seul corps et vraiment été béni de ça. Je remercie le Seigneur pour ce beau voyage-là. On va prier, d'accord, avant de passer au message, la parole de Dieu. Seigneur, eh bien, je veux te remercier pour ce beau voyage personnellement et de voir cette église, l'église Évidence, là-bas à Paris, de voir tout ce qu'ils font et cette belle œuvre que tu es en train d'accomplir, surtout chez les immigrants. et combien que on voit ton amour, et pour eux et pour nous, de voir comment, Seigneur, tu te soucies des âmes et comment tu es en train de bâtir ton Église et comment tu prends soin de ton Église. On veut te bénir, Seigneur, et te louer pour tout ce que tu fais. Et ce matin, ce que nous voulons regarder dans les Écritures, c'est cette question de la foi. On veut te demander, Seigneur, que tu puisses nous aider à saisir cette leçon si profonde que Jésus veut transmettre à ses disciples, qui a fait vraiment une grande différence dans la vie des disciples et des apôtres. Nous aussi, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ce rappel solennel. Et on te prie que ton esprit puisse nous éclairer. Et on te remercie pour l'œuvre de l'esprit d'illuminer nos cœurs, à dévoiler nos cœurs pour nous aider à comprendre les leçons de ta parole. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, en tout cas, ça m'arrive malheureusement trop souvent. Mais parfois, on rencontre des gens à une certaine époque où ils ont beaucoup de foi. Mon ami, tu les entends parler, ils donnent tellement un beau témoignage. C'est des gens solides, c'est des gens convaincus. Puis, tu sais, la foi à son meilleur peut déplacer des montagnes. Et tu rencontres parfois des gens qui vont te parler de leur foi en Jésus-Christ, et c'est très édifiant, c'est très inspirant pour nous, des gens déterminés, une foi solide, pleine de vigueur. Et quelques années vont passer, tu vas retrouver les mêmes personnes 4, 5, 6 ans après, et tout d'un coup, ce n'est plus du tout les mêmes. La foi, tout d'un coup, n'a plus cette vigueur, cette solidité. Ils se retrouvent avec une foi vacillante, fragile, vulnérable, facilement ébranlable. Et tu te demandes comment ça se fait que la foi peut, d'une journée, être si solide, pleine de vigueur et pleine d'énergie, de zèle, peut déplacer des montagnes, et cette même personne qui avait cette foi peut se retrouver à une époque plus loin, et la foi va sembler chambranlante. Et c'est ça qu'on veut vraiment voir ce matin dans un passage que nous allons considérer. Les disciples eux-mêmes qui ont été témoins de plusieurs miracles au chapitre que nous allons lire jusqu'à ce point-ci, ont été témoins de plusieurs miracles, et la foi des disciples elles-mêmes va se retrouver plus faible qu'elle ne l'était. Ce qu'on va découvrir dans la parole de Dieu, c'est que la foi est influençable. La foi n'est pas statique, elle est dynamique. La foi peut être forte comme elle peut être faible. La foi, il n'y a pas de statu quo dans la foi. Il faut veiller sur la foi parce que la foi peut être forte et en même temps, la même foi peut vaciller et être vulnérable. Et nous allons découvrir dans les Écritures quoi faire pour garder une foi vibrante et solide. La Bible parle d'un côté de la foi de David qui va affronter Goliath, mais il va parler aussi de la foi d'Élie qui a fait des miracles, mais qui va se décourager devant Jézabel. La foi est si importante, clé pour nous, que Dieu va même envoyer un prophète aller voir Akaz pour lui dire ceci: « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Comment avoir la foi et surtout, comment garder la foi? Comment pouvons-nous garder la foi alors que nous vivons dans un monde si acerbe et irrévérencieux, des gens si irreligieux, des gens, nous sommes entourés de gens qui vont essayer même de nous influencer par moments à abandonner la foi. La Bible est claire à ce sujet et elle parle, elle dit que des gens sont spirituellement aveugles. Et nous aussi, nous avons été là. Nous avons tous été par nature des gens aveugles, spirituellement aveugles. Il y a plusieurs raisons que nous découvrons dans les Écritures pourquoi nous sommes spirituellement aveugles. Premièrement, le péché. Nous-mêmes, nous pouvons lire dans Jean 3, 19 ce qui suit: « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Il y a des gens carrément qui refusent l'Évangile, refusent de croire simplement parce qu'ils veulent continuer à mener la vie qu'ils mènent. Ils ne veulent pas de Dieu dans la vie. Aucun intérêt d'avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire et comment se conduire. D'autres personnes sont rendues aveugles par l'influence du diable. Nous lisons qu'il y a un prince de ce siècle, et c'est le diable, c'est Satan, et il veut aveugler les hommes. Il veut les détourner de Dieu, les éloigner de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Troisièmement, l'aveuglement peut relever du jugement souverain de Dieu. Lorsque Dieu voit des gens qui sont aveugles et veulent vivre dans leur péché et continuer dans leur péché, et le diable vient et rend plus de ténèbres, il vient à un moment donné que Dieu les rend aveugles une fois pour toutes dans son jugement souverain et ils ne peuvent pas revenir. Luc 19, par exemple, Luc entre dans la ville, il approche la ville et Jésus, nous voyons Jésus dire, en voyant la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle et dit ceci, « Si toi aussi, au moins en ce jour qu'il t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Voilà Jésus qui entre, qui arrive. Voilà le Messie qui arrive. Tant annoncé des centaines de prédictions et de prophéties dans l'Ancien Testament sur la venue de Jésus-Christ. Voilà ce grand jour qui arrive, qui est donné à Israël. Et Jésus dira, en pleurant, en versant des larmes, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Parce que Jérusalem a refusé de croire, aveuglée par leurs propres péchés et de surcroît par les ténèbres que le diable a emmenées. Voilà maintenant Dieu qui intervient et les aveugle une fois pour toutes. Alors les hommes sont triplement aveugles, ils sont aveuglés par le péché, par le diable, ils sont aveuglés par Dieu qui les juge en les rendant spirituellement aveugles. Le monde est donc spirituellement aveugle, et nous étions tous aveugles. Nous faisions partie de ce nombre, car nous étions tous pécheurs. Nous faisons tous l'objet de l'aveuglement du diable. Et en conséquence, on se retrouve sous un jugement souverain de Dieu, lequel empêche les gens de voir son royaume. La Bible dit qu'il y a deux groupes de personnes, par contre. Il y a ceux qui vont toujours rester aveugles et ceux qui seront rendus, qui vont retrouver la vue, qui auront la vue en Jésus-Christ en se retournant vers Christ. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre. Dieu fait cette intervention. Pour le premier groupe, on verra la raison pour laquelle ils ne voient pas et ne verront jamais. Et pour le deuxième groupe, nous verrons que même si Dieu nous rend capables de voir, par la foi en Jésus-Christ, nous verrons que notre foi peut vaciller et nous regarderons comment garder cette foi. Alors, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 16 et on va lire pour le moment juste les quatre premiers versets et on va s'arrêter sur ce qui se passe dans les quatre premiers versets. Matthieu 16, versets 1 à 4. Vous êtes là? Matthieu 16, oui. Il y a quelqu'un avec des Bibles ici, là, si jamais il vous manque de Bible. Quelqu'un ici se promène. Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, ils demandèrent de faire un signe, de faire voir un signe venant du ciel. Faire un miracle, dans le fond. Le mot « signe », c'est le même. Que miracle. Il lui demande de faire un miracle venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis, il les quitta. Mais ça, c'est vraiment triste, alors que Dieu, Jésus-Christ, va fermer la porte. Ça va être un point tournant ici dans la vie de ces pharisiens. Alors, les chefs religieux, ces experts de la loi, ces docteurs de la loi, demandent un signe à Jésus-Christ. Verset 1. Ne manquez pas le verset 1, il y a un petit détail ici important. Ça dit ceci, les pharisiens et les sadducéens. Voici deux groupes qui saillissent, qui vont maintenant s'unir
pour une cause. Deux groupes, deux partis, autant religieux que politiques. Vraiment, les deux ne se tenaient pas avec le même groupe de personnes. Les pharisiens se tenaient avec les plus pauvres, les sadducéens avec les riches. Ils avaient vraiment beaucoup d'influence sur le plan politique et ils n'avaient même pas la même théologie. Mais c'est intéressant que l'auteur va écrire ce qui suit dans l'original, les pharisiens et sadducéens. Il n'y aurait pas d'article au deuxième. Et ce n'est pas par hasard. Ce qu'on veut voir ici, c'est de démontrer l'unité entre ces deux groupes. Alors, il pouvait imaginer les pharisiens puis sadducéens. C'est un peu comme s'il disait les pharisiens et sadducéens. Ce que l'auteur veut faire ressortir ici, c'est tout d'un coup, voici deux groupes qui ne s'entendent pas, qui s'haïssent, mais qui vont s'unir ensemble pour prendre Jésus-Christ. Maintenant, les deux groupes s'haïssaient, tant sur le plan politique que théologique, ne croyaient même pas la même chose. Par exemple, les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection des morts. Les sadducéens croyaient juste aux cinq premiers livres de la Bible, à la Torah écrite, à la loi écrite. Les pharisiens croyaient à la loi écrite, mais en plus à toute leur tradition, ce qu'on appelle la loi orale. Ils n'avaient même pas les mêmes convictions religieuses, même pas la même théologie, ils ne se tenaient même pas avec les mêmes gens, et c'est vraiment deux parties qui s'haïssaient pour mourir. Et voilà que tout d'un coup, ils vont se mettre ensemble, et pourquoi? Bien, pour piéger Jésus, pour éprouver Jésus, le tester, le piéger, le prendre. Ils ne travaillaient jamais ensemble en passant, mais voilà, ils sont ensemble maintenant pour les prendre. Et malheureusement, il va se passer quelque chose à ce stade-ci, à ce point-ci. Ce sera la dernière fois que Jésus va offrir une invitation aux pharisiens et aux sadducéens, parce qu'à partir de maintenant, lorsque Jésus va les rencontrer, il va les condamner. C'est comme si Jésus tourne un bouton et ferme la lumière pour que ça soit juste ténèbres et plus de lumière. Alors, on va voir Jésus quitter ce lieu, prendre le bateau, tourne la porte, tourne le dos, s'en va et quitte. Et pour la plupart du temps, maintenant, ce qu'il va faire, il va passer son temps à former les disciples et les préparer pour la mission qui s'en vient. Jésus ne fournira plus de signes à ceux qui le rejettent. Il passera son temps surtout à former ceux qui ont la foi. Alors, les pharisiens et les sadducéens s'unissent pour éprouver Jésus. Et quel est leur plan pour piéger Jésus-Christ? Bien, ils demandent un signe, un miracle, même mot dans l'original, un signe venant du ciel. Fais-nous un miracle. En d'autres mots, leur question, c'est fais-nous un miracle tellement impressionnant qu'on va pouvoir croire que tu es vraiment le Messie. Maintenant, c'est très étonnant quand tu arrives au chapitre 16, parce que rendu au chapitre 16, Jésus venait de faire un paquet de miracles. Et les pharisiens le savaient, les sadducéens le savaient. Et on sait, à partir du chapitre 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'au chapitre 16, c'est plein de miracles. Jésus guérit un lépreux, Matthieu 8. Il guérit le serviteur du centenier, Matthieu 8, 5. Il guérit la belle-mère de Pierre. Il guérit plusieurs démoniaques. Il guérit tous les malades en allant à Capernaum. Il va chasser des démons dans la décapole. Il va guérir un paralytique dans sa ville. Il a ressuscité une fille morte dans Matthieu 9, 18. Et la nouvelle s'est répandue dans toute la contrée. Les gens le savaient. Il guérit une femme qui souffrait d'une perte de sang, que ça faisait 12 ans que les rabbins et les chefs religieux essayaient de guérir par leurs médicaments et leurs prescriptions, et ça n'a pas marché. Jésus est allé comme ça, juste par la foi. Cette femme, la foi en Jésus-Christ, elle a guéri. La nouvelle se répandait, les gens le savaient. Il guérit deux aveugles et un démoniaque dans Matthieu 9, et la nouvelle de ces miracles s'est répandue, nous dit le texte, dans tout le pays. Les gens le savaient, là. Pharisiens, sadducéens savaient, ils avaient vu certains de ces signes-là, des miracles, ils savaient. Jésus a chassé les démoniaques d'un muet, puis le muet a commencé à parler. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il guérit toutes les maladies, toutes les infirmités, nous lisons dans Matthieu 9. Il a donné même le pouvoir sur les maladies et les démons à ses disciples, et les disciples sont allés faire des guérisons au nom du Seigneur Jésus. C'est arrivé, Matthieu 10. Il guérit un homme à la main sèche, Matthieu 12. Il guérit un démoniaque et un aveugle et un muet, Matthieu 12, 22. Et les pharisiens qui étaient là, qui ont vu, ont dit, « Ben garde, c'est le diable qui lui donne la puissance de faire ces miracles-là. » Laissez-moi vous dire que quand tu es aveugle, spirituellement parlant, là, tu es vraiment aveugle. C'est vraiment de ne pas voir. Et après avoir entendu parler et vu ces miracles, nous lisons dans Matthieu 12, on est rendu au Matthieu 16, d'accord? On lit au Matthieu 12, qui est quatre chapitres avant, que les pharisiens et les scribes ont demandé exactement la même chose que chapitre 16. Écoutez, laissez-moi vous lire un passage dans Matthieu 12, on est dans Matthieu 16. Matthieu 12, verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. »
Ça sonne comme pas mal pareil que tantôt. Hein?
« Fais-nous un miracle. » Jésus vient faire un paquet de miracles. Moi, les miracles que je viens vous parler tantôt, c'est tout avant chapitre 12. Et verset 39, il leur répondit, Jésus leur répondit, même chose, il donne exactement la même réponse, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car demain, et là il va l'expliquer un peu, demain que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Évidemment, ça parle de la crucifixion et résurrection de Jésus-Christ. Chapitre 12. Il demande un signe. Et voici la grâce de Dieu. La porte va fermer au chapitre 16. Mais regardez bien ce qui se passe. Jésus dit, il n'y aurait pas d'autre signe sauf celui de Jonas. Et qu'est-ce qu'il fait après? Jésus nourrit 5000 hommes, multiplie des pains, miracle, on pense qu'il y avait peut-être 20 000 personnes juste là, et Jésus les nourrit. Tout après, Matthieu 14. À Génézareth, on lui emmène tous les malades et les gens. Il y avait tellement une foule que les gens demandaient un service. Jésus, au lieu de te prier à chaque fois, on a cette fois, on peut-tu juste toucher ton linge quand tu marches pour être guéri? Jésus dit, oh, c'est correct ça. Alors la foule a approché Jésus-Christ, accroche, touche son linge et tout le monde qui touchait le linge était guéri. Quand même, c'est phénoménal, là. Mais ça se passe où, ça? Matthieu 14. Il guérit une fille cananéenne à distance. Matthieu 15, 21. Il guérit encore plusieurs malades près de la mer de Galilée. Il guérit tous les malades qu'on lui emmène. Matthieu 15, 29. Et comme c'était passé, juste avant, chapitre 15, juste avant celui qu'on commence aujourd'hui, chapitre 15, Jésus va nourrir, il n'y a pas de nourriture, pas de ressources, rien, sauf lui, juste quelques pains, poissons, et Jésus va nourrir 4000 hommes, à part des femmes et des enfants et tout ça. Et là, on parle que les deux miracles des pains, certains disent qu'il aurait nourri à peu près 50 000 personnes. Ça, c'est avant le chapitre 16. Au chapitre 16, donc, et j'ai fait par exprès pour faire un survol, pour revenir là-dessus, là, pour que vous puissiez comprendre la profondeur de l'aveuglement des ténèbres ici. À la lumière de tout ce qui se passe et des rumeurs qui circulent partout dans le pays, et ce témoignage très puissant de la foule et de tout le monde qui circule et disent que Jésus est en train de guérir une paquet de monde, plein de monde, les pharisiens, les sadducéens viennent voir Jésus encore et demandent un miracle pour les convaincre qu'il est le Messie. Combien ça prend de miracles pour convaincre quelqu'un qui a un cœur dur? Avez-vous la réponse à ça? Aucun. Aucun. Certaines personnes sont aveugles, spirituellement parlant, et resteront toujours aveugles. Thomas d'Aquin dit ceci, « L'explication est inutile pour ceux qui ont la foi. Et à celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible. » D'accord? Vous avez été là, hein? Vous avez rencontré des gens comme ça. Aucun signe. Aucun miracle, si puissant soit-il, ne réussira à faire fondre le cœur, un cœur dur et fermé à l'Évangile. Pas les miracles qui font ça. Ça prend un miracle de Dieu pour changer un cœur dur et l'attendrir pour qu'il soit sensible à l'Évangile. C'est un miracle. Et c'est dans les habitudes de Dieu de rester en silence devant l'incroyance. En revanche, il se plaît à se faire connaître, à se révéler à celui qui a la foi. Il se donne. Il est très généreux. À celui qui a, je vais en donner encore plus, dit le Seigneur. Mais les pharisiens et les sadducéens demandent un signe, et pourtant, ils auraient dû lire le signe des temps. Voici des experts de la loi, des docteurs de la loi. Alors, non seulement Jésus venait de donner un paquet de signes, de miracles, jusqu'au chapitre 16, mais voici des experts de la loi qui enseignaient à chaque semaine dans les synagogues que le Messie s'en venait. Ils savaient, ils connaissaient l'Ancien Testament, ils enseignaient l'Ancien Testament. On voit, on a fait une série l'automne dernier sur les prophéties de la première venue de Jésus-Christ. Il y en a une tonne! Plein de prophéties de l'Ancien Testament qui avaient été données des centaines d'années avant en regard au Messie qui s'en venait. Et Jésus les a réalisées. Les pharisiens, les sadducéens enseignaient que le Messie qui devait venir serait humain. On apprend ça dans Genèse 3,15, la postérité de la femme, qui serait de la descendance d'Abraham, qui serait de la descendance de Judas, qui serait un roi, on apprend ça, qui va être un prophète comme Moïse, qui va naître dans la maison de David, qui va passer par la pauvreté avant la richesse. D'ailleurs, on va associer le Messie qui vient au père de David, à l'époque où il était pauvre, qui aura la septuple de la plénitude de l'Esprit. On voit ça dans Ésaïe 11. Qu'il aura un précurseur, et on le voit avec Jean-Baptiste, que le Messie serait un serviteur, il agirait comme un serviteur, et certainement c'est ce que Jésus a fait, qu'il aurait un ministère de prédication prophétique, on voit ça dans Ésaïe 61, qu'il naîtrait à Bethléem, dans la ville de David, imaginez, c'est arrivé, le Messie serait assis sur un âne, et entrerait dans la ville de Jérusalem sur un âne. Jésus a tout réalisé, ses prophéties, d'ailleurs même, toutes sortes de prophéties. Dans le psaume 110, les pharisiens savaient ça. Le psaume 110, on dit même que le Messie allait avoir une prêtrise. Il serait le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ce qui est tout à fait étonnant. Voyez-vous, Melchisédek était un roi et un prêtre de Jérusalem, ce qui ne se faisait plus rendu que la loi de Moïse a commencé parce que tu ne pouvais pas être roi et prêtre en même temps. Les sacrificateurs étaient de la famille de Lévi, de la tribu de Lévi, et les rois devaient venir de la famille de Juda, la tribu de Juda. C'est impossible. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, dans le psaume 110, on prédit qu'il va y avoir un chambardement dans la loi mosaïque, une nouvelle loi qui va remplacer l'ancienne, une sorte de nouvelle alliance pour permettre au Messie d'être à la fois sacrificateur et roi. Les pharisiens savaient ça. C'est prédit dans l'Ancien Testament. Et voilà, ils sont aveuglés, ne voient pas. Voici ces théologiens, ces experts de la religion, ces docteurs de la loi, pourtant ne voient pas les signes que Jésus leur donne depuis le début. Plein de signes, plein de signes. Ils ne voient pas les signes théologiques, bibliques et des signes de miracles depuis le début, ils ne le voient pas. Voici comment Jésus répond. Il dit au verset 2 à 4 justement que Jésus vous fait une comparaison, il dit, écoute, vous savez comment regarder le ciel le matin, vous savez comment il va faire dans la journée. Vous n'êtes même pas des experts, mais vous savez comment interpréter les signes du ciel pour connaître la température de la journée. Vous savez s'il va pleuvoir, s'il va faire soleil, tout ça. Mais pourtant, vous êtes les théologiens, ce dont vous devriez être des experts, vous ne savez pas comment interpréter les signes des temps. Vous êtes les experts. Et pourtant, vous n'êtes pas capable de voir. Vous êtes ceux qui prétendez voir le plus alors que vous ne voyez rien. C'est ironique quand même. Hein? Il y a eu un professeur, Dr. Ralph Kuyper, qui est rentré. C'est un professeur, mais il était aveugle. Puis il est rentré dans un grand centre d'achat, style Walmart aux États-Unis. Fait qu'il rentre, je pense que c'était à Philadelphie, il rentre dans le centre d'achat. Gros magasin, c'était immense et tout ça. Finalement, il se faufile, il avance, puis il réussit tant bien que mal à avancer, tout ça. Puis d'un coup, il s'aperçoit que c'était une grande journée spéciale. Il y avait une femme spécialiste, diseuse de Bonaventure, spécialiste dans la lecture des mains, l'horoscope et prédire l'avenir et tout ça, qui était là cette journée-là pour le lancement de son livre. Alors, c'est une grande vedette toute la journée, la publicité, puis tout avait tourné autour de ça cette journée-là. Il y avait du monde qui attendait en file. On a une file d'attente qui attendait pour aller la rencontrer, faire signer son livre. Puis tout ça, et à chaque personne qui passait, ça prenait les mains, tout ça, puis elle commençait à prédire l'avenir de chaque personne qui passait. Et le professeur était scandalisé, il dit, ça n'a pas de bon, tu ne peux pas laisser ça faire. Fait qu'il dit, il réussit à faire son chemin, puis tout ça. Alors, il pousse un petit peu, puis il avance, écoute, il y a un problème avec les yeux, tout ça. Alors, il réussit à s'en venir juste en avant d'elle, devant la table, puis il dit à madame, la madame, c'est une vedette, là, vraiment une grande vedette. Alors, il dit, madame, excusez, pourriez-vous me dire où sont les Kleenex dans le magasin? La femme la regarde, elle dit, mais franchement, pourquoi? Comment ça que je ferais ça, moi? Est-ce que je l'aide une femme qui travaille ici? Elle dit, je ne sais pas ça, moi, où sont les Kleenex? Voyons donc. Fait que là, le professeur Kuyper, il dit, très haute voix, du haut de sa voix, il commence à crier, puis il dit, comment ça que vous ne savez pas ça, madame? Vous prétendez dire l'avenir de tout le monde qui vient de passer, vous connaissez l'avenir de chaque personne, et vous ne savez pas où sont les Kleenex dans le magasin?
Tout le monde a entendu. Les gens derrière ont... Non, écoute, c'est une bonne question, hein? Une très bonne question. Où sont les Kleenex? Tu dis que tu es capable de voir l'invisible et prédire toute l'avenir, puis tu sais même pas, juste une question si simple, où sont les Kleenex? C'est une bonne question. Voici les pharisiens, les sadducéens, qui étaient les experts de la loi, qui auraient dû être les premiers à voir les signes des temps, que c'est le temps pour le Messie, il est là, et ne voit rien. Absolument rien. Et c'est comme aujourd'hui. Même chose aujourd'hui, les gens, malheureusement, ne savent pas reconnaître les signes. Quelque chose qui ne marche pas dans la société, ça ne va pas, il manque quelque chose. Et on a besoin de la foi. D'ailleurs, même dans les Écritures, au Nouveau Testament, ça le dit, 2 Thessaloniciens 2:2, on voit qu'il y a des signes à la fin des temps. Et c'est évident qu'il y a des signes qui démontrent que Jésus est sur le bord de revenir. Mais pour nous qui avons la foi, nous avons besoin d'être vigilants et considérer ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Et nous pouvons, comme enfants de Dieu, regarder les signes des temps et comprendre que le Seigneur s'en vient. Mais il faut être vigilant. Et c'est ce que le Seigneur va dire à ses disciples dans ce qui va se passer, un petit scénario bizarre. Et je vous dis, j'ai lutté fort cette semaine pour comprendre ça. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça vient faire dans ça, là? Une histoire très bizarre. Et on va lire ensemble versets 5 à 12. Les disciples. Alors là, Jésus vient d'avoir cette altercation là, avec les pharisiens, les sadducéens. Il quitte, il s'en va. Alors ça le dit d'ailleurs à la fin du verset 4, puis il les quitta, il s'en alla. Alors verset 5, les disciples en passant sur l'autre bord, donc ils s'en vont, prennent le bateau, là, une petite barque, puis ils quittent. Alors regardez bien ce qui se passe. Alors, vous comprenez la profondeur de l'enseignement qui vient d'avoir lieu ici, d'accord? La grande question profonde, et c'est qui est Christ? Qui est Christ? D'accord? Qui est Jésus-Christ? Jésus sort de là, les disciples sortent de là, et ils embarquent dans le bateau. Regardez bien. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Pas de sandwich. Non, mais c'est vrai. Verset 6, Jésus leur dit. Là, Jésus va leur donner un message très profond, très, très solennel, qui fait suite, et c'est pour ça que j'ai tout mis ça ensemble, parce que ça va ensemble, qui découle de ce qui précède avec les pharisiens et les sadducéens, d'accord? Cette histoire, cette rencontre, cette confrontation, là, cette question sur la personne du Christ, tout ça découle de là, et là, Jésus va dire à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, verset 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Ils disaient, « Ben écoute, c'est parce qu'on n'a pas amené assez de sandwich. Pourquoi ils parlent de même? » Non, mais c'est fort pareil, là. Voici Jésus qui donne un enseignement tellement profond, tellement solennel, tellement sérieux. Puis les disciples sont en train d'avoir une discussion sur le lunch. Or, Jésus nous chicane parce qu'on n'a pas de nourriture, on n'a pas amené assez de pain, on n'a pas amené assez de sandwich. Jésus nous chicane pour ça. Ces gars-là viennent voir un paquet de miracles, viennent voir la confrontation des pharisiens et des sadducéens. Là, ils ont tout vu ça. Les autres s'imaginent que Jésus est en train de parler des sandwichs. Mais non, mais écoute, j'invente rien. Là. Est-ce que je suis fidèle au texte? C'est ça que ça dit. C'est la grosse discussion. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, moi je suis certain qu'il y avait ça de même, il dit, je suis certain que Jésus, oh, quelle gang, moi je suis certain qu'il y a... Non, mais je suis certain qu'il n'a pas dû répondre seul. Moi, je suis certain que c'était arrêté, puis il a regardé, mais... Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais voyez-vous la bonté du Seigneur? Ah, mais là, il est fâché, là. Il n'est vraiment pas de bonne humeur, là. Mais quand même, on voit à travers ça sa grâce, pareil, hein, sa bonté. Il prend le temps de répondre. C'est incroyable. Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi. Sur le fait que vous n'avez pas assez de pain. »
Êtes-vous encore sans intelligence? Et là, ça va être la clé pour nous aider, nous autres qui sommes des enfants de Dieu. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez remporté? 12. Et les 7 pains de 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? 7. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous, il répète ici cette exhortation, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, et ça c'est Matthieu qui va dire que finalement on a réussi à comprendre. Matthieu va ajouter ça ici, il va dire, alors ils comprirent, les disciples comprirent, que ce n'était pas du levain des pains qu'il avait dit de se garder, mais c'est de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quelque chose de très riche ici dans ce qui se passe. Ça m'a pris du temps à réaliser et à comprendre, mettre le doigt dessus. Et même dans la voiture, un matin, je luttais encore avec ça. C'était pas évident. Puis ça, c'est terrible quand ça t'arrive, quand juste à quelques minutes avant que tu prêches. C'est pas trop bon. Mais là, ça se dessine assez clairement de voir ce qui se passe, là, finalement. Là. Alors, Jésus met en garde, premièrement, les disciples des pharisiens. Il va répéter deux fois, et ça, c'est vraiment important. Il va dire, prenez garde du levain des pharisiens. Le levain, on le voit, le verset 12, il l'explique, c'est l'enseignement des sadducéens et des pharisiens. Maintenant, Jésus n'était pas contre tous les enseignements des sadducéens et des pharisiens. Le levain, ça fait quoi? Ça influence toute la pâte, ça touche toute la pâte. Et un mauvais enseignement va avoir quelque chose qui n'est pas fidèle aux Écritures, va avoir un impact sur ta foi. Et c'est ça qu'il est en train de dire, dans le fond. Parce que Jésus, les pharisiens croyaient à la résurrection, ça c'était correct, mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Et je pense que c'est ça le levain ici. Et il y avait toute une question d'hypocrisie, de superficialité, de religion superficielle, extérieure et tout ça. Et tout ça fait partie certainement du levain ici. Mais je pense que la question de fond ici, dont il est question, c'est ce qu'on appelle dans notre milieu là, la christologie. Comment tu vois Christ? Qui est Christ pour toi? Et voici, je pense que le message de ce passage, j'en suis vraiment de plus en plus convaincu, que le vrai message derrière tout ça, c'est que ta foi sera aussi forte que la perception que tu as de Christ. Et les disciples avaient besoin de réaliser ça parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la leçon que Jésus va donner, qui va changer le cœur des disciples, si bien que juste après, et je pense que c'est Yannick qui va prêcher là-dessus, Pierre va faire une déclaration solennelle et dire, quand Jésus va demander qui est, qui dit-on que je suis? Et Pierre va répondre. Il va prendre position. Mais cet épisode qui se passe ici, se passe juste avant la confession de Pierre. Et c'est le secret pour nous, bien-aimés, les enfants de Dieu. Il nous faut saisir ceci. Vous voyez, les disciples avait mis l'accent sur le terrestre, le matériel, le pain, la nourriture, des choses qui sont nécessaires, mais tellement peu importantes lorsqu'on compare à la grandeur de Christ et ce que nous devrions penser de la personne du Christ. C'est si facile de tomber dans des choses quotidiennes que l'on perd, nos yeux ne sont plus sur la personne de Christ. Et la foi est vitale, c'est là que ça se joue, c'est ta foi sera aussi forte que ta perception de Christ. C'est là que ça se joue. Quel était le problème des disciples? Je me suis arrêté là-dessus cette semaine, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes disciples qui faisaient des miracles et des guérisons. Qu'est-ce qui s'est passé pour que leur foi change, vacille et soit si fragile, vacillante tout d'un coup? C'est les mêmes disciples qui ont vu des tonnes de miracles, un après l'autre, depuis le chapitre 8 de Matthieu. Ils étaient là, ils ont vu les miracles. Comment la même personne qui pouvait guérir des malades se retrouve maintenant inquiet, angoissé même, qui manquait de nourriture? T'es comme David un jour qui peut affronter Goliath et le lendemain, t'es comme Élie, découragé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui s'est passé? Et Jésus nous le dit ce qui s'est passé. Et ça, c'est la clé. Il ne faut vraiment pas manquer ça. C'est deux mots. Deux mots en réalité qui nous le révèlent, qui nous aident à comprendre. Premièrement, Jésus va les confronter sur leur petite foi. Et en passant, ce n'est pas la première fois. Jésus va dire exactement les mêmes paroles, mot à mot, gens de peu de foi. Il va le dire au chapitre 8, chapitre 14, chapitre 15 et encore ici au chapitre 16. Vous allez dire, son nom est dur à comprendre. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, on pouvait tous être dans le bateau ce jour-là. On est tous comme ça, c'est vrai? On est tous forts une journée, on peut déplacer des montagnes, le lendemain, bon sang, quelque chose t'arrive, une épreuve, il y a quelque chose qui t'arrive, tu manques de pain, perds ta job et tout d'un coup, t'es vulnérable. Et ici, Jésus va livrer le secret, ici, la clé ici. Il y a le verset 9, la clé c'est au verset 9. Regardez bien ce qui va se passer. Êtes-vous encore sans intelligence et avez-vous oublié? Vous ne vous rappelez pas? Vous avez oublié? C'est facile d'oublier les œuvres de Christ. C'est facile d'oublier ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur a fait dans les Écritures, ce qu'il a fait dans ta vie. C'est facile d'oublier ça. Mais, alors, il faut faire attention, comme chrétien, comme enfant de Dieu, on a besoin de constamment plonger les regards dans les Écritures saintes pour nous rappeler, fois après fois, on a besoin de se faire rappeler ce que Christ a fait. D'accord? On s'entend là-dessus? Certainement, ça va nous protéger, ça va protéger notre foi. C'est là que notre foi est stimulée, puis elle est fortifiée. Mais là, Jésus va dire, « Ne comprenez-vous pas ce qui s'est passé avec les pains? J'ai nourri 50 000 personnes. » Le problème avec les disciples, ils avaient une mémoire qu'intellectuelle. Et c'est vraiment intéressant ici, parce que le mot « se rappeler » est plutôt comme le mot hébreu qui s'appelle « zachar », qui veut dire, et c'est pas juste une mémoire intellectuelle, c'est pas juste se souvenir intellectuellement, « Ben oui, je sais que tu as fait ça. » Non, non, c'est « Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie, ça? » C'est ça que Jésus est en train de dire. Le mot aurait pu être traduit comme « se soucier de, tenir compte de. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte du miracle que j'ai fait? Vous n'avez pas tenu compte de, vous n'avez pas réfléchi qui était celui qui avait fait ce miracle. Vous vous êtes arrêté qu'uniquement sur le pain, alors de regarder qui a fait le pain. » Voyez? Vous arrêtez à la mauvaise place. D'ailleurs, par ces deux miracles, Jésus est en train de dire ceci, et les disciples ne le saisissaient pas. Au premier miracle, il restait 12 paniers, et le chiffre 12 donne tout de suite à penser à un juif, aux 12 tribus d'Israël. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que je serai le pain de vie à la nation d'Israël. C'est moi le Messie. Lorsque Jésus a fait le miracle juste avant et qu'il reste 7 panier, tout de suite, pour les rabbins dans le temps, pour tous les juifs de l'époque, les 7 fait penser aux 7 nations. D'ailleurs, Paul va parler plus loin dans le livre des Actes, et on voit cette expression-là revenir dans le livre des Actes, les 7 nations. C'était connu, ça. Alors, 7 faisait penser aux non-juifs. Et ce que Jésus est en train de dire par le premier miracle, je suis le pain de vie, c'est moi le pain de vie, le Messie, à la nation d'Israël, et par le miracle des 4000 hommes, il est en train de dire qu'il reste 7 paniers, je suis également le pain de vie à toute la nation, les nations, jusqu'au bout du monde, les non-juifs. C'est pour ça que Jésus se retourne et dit aux disciples, vous ne comprenez pas, vous ne vous êtes même pas arrêtés pour réfléchir au message, au sens de ces miracles-là. Pour vous, tout ce qui conteste la bouffe. Et mes chers amis, ça nous donne à penser que nous, comme enfants de Dieu, il faut vraiment réfléchir, non seulement sur les œuvres de Christ, mais sur la personne de Christ. Vois-tu, ta foi sera aussi forte que la perception que tu as de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. D'où l'importance d'avoir une bonne christologie, qu'on dit. Qui est Christ? Et ce que nous avons besoin pour fortifier notre foi, c'est de voir encore plus Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait la différence. Et c'est là le message. Et évidemment, ça a des conséquences. Si tu veux avoir une bonne perception de Christ, il te faut plonger les regards dans les Écritures. Il faut réfléchir, passer du temps et méditer sur ce que Dieu a fait et tomber davantage en amour avec la personne de Christ. Vois-tu? Tout se joue là, parce que ta foi sera aussi forte que la perception que tu as de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins de meubles Eaton Allen, aux États-Unis, c'est très gros, plusieurs magasins de meubles Eaton Allen aux États-Unis, très connus. D'ailleurs, on voit même des annonces sur le câble, les meubles des magasins Eaton Allen. Eh bien, très connu, mais ce qu'on connaît moins de lui, c'est que c'était évidemment beaucoup de succès et tout ça. Mais Ethan Allen a écrit un livre. Et c'est ce qu'on connaît moins, c'est qu'il a écrit un livre. Et l'intention d'écrire son livre, c'était de détruire la divinité de Jésus-Christ. Imagine-toi, avoir comme but avouer, d'écrire un livre pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Ah, il était farouche, là, c'était. Il était contre Jésus-Christ, puis beaucoup d'agressivité par ça. En revanche, aussi bizarre que ça puisse sembler, sa femme, c'était tout à fait le contraire, une chrétienne consacrée, une femme qui aimait Jésus-Christ. Puis entre les deux se trouvait leur fille. Pris entre les deux. Avec maman qui a une foi consacrée, une femme qui ne cessait pas de parler de Jésus-Christ à la maison et qui priait pour son mari, pour sa fille, qui n'arrêtait pas de parler de Jésus-Christ, puis qu'il l'aimait, qu'elle allait à l'église, très engagée. Et son père, qui ne voulait rien savoir de Jésus-Christ, absolument rien. La mère qui était pieuse, consacrée au Seigneur, mourut. Elle est morte et décédée. Alors évidemment, elle laisse derrière elle sa fille qui s'est retrouvée tout seule avec son père, qui haïssait Jésus-Christ. Cette chère fille sensible, délicate, qui gardait de bons souvenirs de sa chère mère, respectait aussi son père. Et elle était prise vraiment entre les deux à savoir qui choisir. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus-Christ? Est-ce que je vais être pour Jésus-Christ ou contre? Un jour, au désespoir de tous ceux qui l'aimaient, dont son père, évidemment, elle a été infectée avec la tuberculose. Et c'était évident à la voir dans la chambre d'hôpital qu'elle dépérissait de plus en plus. La maladie est en train, tranquillement, de l'emporter peu à peu. Tu rentrais dans la chambre, tu la regardais, tu la voyais, tu ne pouvais pas ne pas pleurer, verser des larmes. C'était juste son visage démontrait qu'elle était en train là, de partir. La maladie était en train de prendre le dessus. Un jour, son père est entré dans la chambre, l'a regardé, puis s'est assis sur le lit, juste à côté d'elle. Puis c'était sa fille, il aimait beaucoup sa fille. Il a pris sa main, puis il prend sa main comme ça dans la sienne, puis il la regarde. Puis sa fille le regarde dans les yeux, elle dit, « Papa, je vais mourir. » Papa dit, « Non, 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 chérie, tu ne mourras pas, fais-toi-en pas, le printemps arrive, tu vas voir, ça va bien, les jours meilleurs s'en viennent, on entend les oiseaux chanter, le vent... Printemps, soleil, tu vas voir, tes joues vont prendre un peu de couleur, puis ça va aller bien. » Elle dit, « Non, 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 papa. » Elle dit, « Le médecin vient de sortir de la chambre dernièrement, là, juste tantôt. » Je lui ai demandé carrément, j'ai dit, « Vous savez, j'ai pas peur. J'ai pas peur de partir. J'aimerais que vous puissiez me dire la vérité. Qu'est-ce qui arrive avec moi? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Parce que je veux me préparer. » Et le médecin me l'a dit, « Papa, je survivrai pas. Je m'en vais. Je vais mourir. » Évidemment, le père pleurait, versait des larmes, puis bouche bée, ne savait pas quoi dire. Il voulait bien encourager, mais en même temps, à ce point-ci, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien à dire. Mais là, la fille regarde son père dans les yeux. Elle dit, « Papa, elle dit, je ne veux pas mourir tout seul. Je ne veux pas mourir puis m'en aller tout seul. Est-ce que je peux te demander de m'enterrer à côté de maman? » C'est ça qu'elle voulait juste avant de mourir. Elle me l'a dit. Ah, il dit, « pas de problème, chérie. J'enterrerai juste à côté de maman. » Puis elle a dit, « J'ai une question pour toi, papa. Qu'est-ce que je fais? » C'est évident que vous ne entendiez pas, toi puis maman, sur Jésus. C'est évident, c'était clair, papa. J'aime, d'un côté, j'aime maman qui avait un amour pour Jésus-Christ, qu'elle n'arrêtait pas de parler de son sauveur, que Jésus était son sauveur, qu'elle s'en allait dans une place bénie avec Jésus-Christ, puis qu'elle était en paix. Et il y a toi, papa, qui ne crois pas à Jésus-Christ. Je veux savoir, papa, qui est-ce que je veux croire? Est-ce que je crois à maman? Croire à Jésus-Christ? Ou est-ce que je vais faire comme toi? Et est-ce que je dois ne pas croire à Jésus-Christ, être contre Jésus? Dis-moi, papa, qu'est-ce que je dois faire? Le père a commencé à pleurer. Puis il a dit, chérie, fais comme ta mère. Sais-tu, chérie, elle avait raison. Je sais qu'elle priait pour qu'un jour on puisse être dans la même place qu'elle. Elle priait pour nous deux. Mais sais-tu, chérie, c'est elle qui avait raison. Et un jour, j'espère pouvoir vous retrouver tous les deux dans ce lieu béni.
prions, Seigneur. Seigneur Dieu, il y a peut-être quelqu'un ici ce matin, Seigneur, qui n'a pas encore cédé sa vie entre tes mains, n'a pas dit oui à Jésus-Christ. Ils ont vu peut-être quelques signes dans leur vie. C'est clair pour eux que tu les appelles. Peut-être tu t'es manifesté par des expériences, des épreuves, peut-être des délivrances. Et peut-être, Seigneur, tu t'es manifesté à travers la voix d'un ami, d'un voisin, peut-être un membre de la famille, peut-être ici, Seigneur. Ces personnes n'ont pas encore décidé de venir à toi. Peut-être que ce matin, c'est le matin, Seigneur. Et on te prie que tu puisses leur accorder cette invitation à nouveau. Et on réalise que c'est une grâce, Seigneur, que de se faire inviter par toi. Parce qu'on sait, Seigneur, qu'il arrive des moments dans la vie où tu emmènes une personne si proche de la croix que tout ce qu'elle a à dire, c'est oui, Seigneur. Et peut-être que ce matin, Seigneur, il y a quelqu'un qui se trouve ici, tout près de la croix, et elle a besoin de dire, oui, Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça ce matin qui se trouve ici? Oh Seigneur, on te prie, parce qu'on sait que cette grâce, c'est juste une grâce, et un jour tu peux fermer la porte comme tu l'as fait avec les pharisiens. C'est une grâce, Seigneur. Et pour nous qui sommes, qui avons déjà dit oui, qui marchons avec toi et qui t'aimons, ça arrive si facilement, Seigneur, de se détourner de l'essentiel et de voir les choses quotidiennes comme étant ce qui est important. Alors, Seigneur, c'est tellement secondaire. Ce qui compte, c'est toi, la personne de Jésus-Christ. Alors, nous aussi, ce matin, nous avons besoin de dire à nouveau, oui, Jésus, oui, Jésus, tu es mon Sauveur, mon Seigneur, et je veux que tu occupes la première place dans ma vie, Seigneur. Rien d'autre n'est important, en fin de compte. C'est toi qui es important, Seigneur. Ô mon Père, que nous puissions venir à toi simplement ce matin, avec foi, te donner notre vie, au nom de Jésus. J'aimerais vous inviter à vous lever.